Alors, bienvenue ici sur le Salon Solutions Bas Carbone et merci de participer à cette première conférence, dans cette salle sur Solutions Bas Carbone. Moi, je suis Yann Dervin, président de ma propre société qui s'appelle Dervin Conseil. Je suis ancien directeur du collectif Effinergie, pour ceux qui connaissent l'association Effinergie, mais vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent la représenter aujourd'hui. Alors, on va parler lors de cette conférence de massification de la rénovation. C'est un sujet très très vaste, hein, donc on va aborder juste sous certains aspects. On a un énorme défi en France fixé notamment par la loi de transition énergétique à l'époque sur la massification de la rénovation et sur la nécessité de rénover l'ensemble du parc bâti en France. À un niveau bâtiment basse consommation. On va reparler un peu tout à l'heure du niveau et du label bâtiment basse consommation, mais c'est un travail énorme. C'est un travail énorme avec un rythme de rénovation globale de bâtiments à un niveau très performant qui doit atteindre 500 000 rénovations par an. Et même, on est un peu en retard par rapport aux objectifs, donc ce 500 000 rénovations par an, va falloir encore l'augmenter en flux, en nombre de rénovations, pour pouvoir atteindre en 2050 ce fameux objectif BBC. Mais je ne vais pas déflorer plus le sujet parce que les brillants intervenants qui sont là vont le faire à ma place. Donc, vous allez avoir trois interventions, trois personnes qui vont interagir. C'est d'abord à ma droite Daniel Jacquemot, qui est directeur de la politique technique de Calibat, hein, c'est bien ça, Daniel. Marie Gracia, donc directrice du collectif Effinergie, et qui était juste avant au plan bâtiment durable pour ceux qui connaissent. Et Franck Lenuelec, qui est à ma gauche, directeur marketing, développement et innovation stratégique chez 3CA BTP. Alors, je vais me tourner dans un premier temps vers Daniel. Daniel, est-ce que tu peux nous parler de comment on fait, comment on va vers la rénovation, quels sont les dispositifs en place et les problèmes que ça peut éventuellement poser?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle effectivement Daniel Jacquemot, je suis le directeur de la politique technique de Calibat. Alors, juste deux mots pour Calibat. Calibat, c'est l'organisme de qualification du bâtiment en France. On qualifie plus de 55 000 entreprises et avec plus de 314 qualifications. Donc pour tout ce qui sera rénovation et rénovation à grande échelle en France, des entreprises qualifiées Calibat interviendront. Et on va voir un petit peu comment. Donc on n'aura pas de trop de nos 55 000 entreprises pour effectivement participer à la rénovation en France. Donc pour rénover en très grande quantité, pour l'État, globalement, il y a deux solutions. Première solution, on impose des travaux et on y viendra peut-être si la rénovation n'atteint pas les niveaux qu'on attend, donc notamment par exemple avec les bâtiments qui ont des étiquettes FEG. Et deuxième solution, et c'est quand même pour le moment ce qui a été mis en place, c'est de mettre des aides en place. Et donc là, pour les aides, il y a des aides qui peuvent venir de l'État, des aides qui peuvent venir de la collectivité, des collectivités territoriales, des aides qui peuvent venir des fournisseurs d'énergie et même des aides qui peuvent venir des caisses de retraite. Donc à la plupart du temps, ces aides sont quand même fonction des revenus des ménages. Mais il y a beaucoup de possibilités d'obtenir des aides. Et donc il faut après essayer de s'y retrouver. Et pour ça, il y avait des conseillers qui étaient des conseillers FER. Et maintenant, si vous voulez obtenir de l'aide, il faut plutôt aller regarder sur Espace Conseil France Rénov. Donc au niveau des aides possibles, je vais juste vous lister quelques aides et vous verrez qu'il y en a pléthore et que pour s'y retrouver, c'est pas forcément très facile. Celle qui est la plus connue et qu'on voit à la télé, c'est MaPrimeRénov. Donc elle finance entre autres, parce qu'on en parlera un tout petit peu, les audits énergétiques aussi. Donc il y a MaPrimeRénov, il y a MaPrimeRénov Sérénité, il y a des éco-prêts à taux zéro qui existent depuis longtemps et qui sont encore accessibles. On trouve aussi des aides de l'ANA, des aides des collectivités locales, des aides des fournisseurs d'énergie, et ça, c'est des aides très importantes, c'est les aides qu'on appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie, des primes coup de pouce, donc vous en avez sûrement entendu parler, ce qui conduisait avec les coups de pouce à éventuellement payer des travaux de rénovation jusqu'à 1 euro, payer même éventuellement des pompes à chaleur jusqu'à 1 euro. Et puis même, on continue toujours avec les taux de TVA réduits de, qui passent de 10 à 5,5. Donc, pour donner toutes ces aides, l'État, au début, bon, quand on avait lancé le photovoltaïque, l'État n'avait fait aucun contrôle. Et donc, il y avait eu toutes les dérives qu'on a connues. Donc, pour éviter quand même qu'il y ait toutes ces dérives, ils ont mis quelque chose en place, un système qui s'appelle l'éco-conditionnalité. C'est-à-dire qu'on ne donne des aides que si, effectivement, il y a un certain nombre de conditions qui sont respectées. Et les conditions pour la rénovation énergétique des bâtiments en France, c'est d'être qualifié RGE. Donc, je pense que vous avez dû au moins voir ce logo RGE. Donc, dès qu'un particulier veut obtenir des aides, il faut obligatoirement faire travailler une entreprise qui est qualifiée RGE.
Rappelons qu'RGE veut dire reconnu garant de l'environnement.
Garant de l'environnement. Et à une époque, c'était reconnu Grenelle de l'environnement et ils ont fait un grand changement.
Le Grenelle,
c'est plus à la mode. Donc, ils ont changé, mais ils ont gardé les mêmes initiales. Et donc, c'est devenu reconnu garant de l'environnement. En fait, pour le RGE, pour les travaux, il y a trois organismes qui interviennent. Il y a Calibat, donc l'organisme pour lequel je travaille. Il y a Califélec, pour ce qui est tout ce qui est travaux d'électricité. Et Calitenr, qui qualifie les entreprises pour les énergies renouvelables. Donc à Calibat, il y a près de 60 000 entreprises qui sont qualifiées. Et sur ces 60 000, il y en a 47 000 qui effectivement sont RGE, c'est-à-dire que les particuliers peuvent faire travailler et qui permettront d'obtenir des aides. Alors comment on devient RGE? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il faut savoir que dans la pratique, il faut d'abord avoir une qualification, donc avec tous les éléments qui sont vérifiés par Calibat, attestation d'assurance, caisse congé, etc. On vérifie les chantiers de référence. Et surtout, pour Calibat, c'est un petit peu nouveau, enfin c'est un peu nouveau depuis 2014, pour chaque entreprise qualifiée, on doit faire un audit dans l'entreprise. Donc on ne fait pas l'audit initialement, on fait l'audit au bout de 2 ans. Mais il y aura un audit qui sera fait sur un chantier, un ou plusieurs chantiers de l'entreprise. Si l'entreprise elle a plusieurs qualifications, on fera plusieurs audits. Et si jamais d'aventure, il y a effectivement des écarts qui ont été repérés, on peut être conduit à faire des audits en plus, voire éventuellement même à supprimer une qualification si effectivement les travaux sont catastrophiques. Donc c'est pour ça qu'il a été décidé de mettre effectivement pour les audits ce qu'on appelle des écarts majeurs et des écarts mineurs. Si c'est des écarts mineurs, ce n'est pas des écarts très importants et l'entreprise pourra les lever. Si c'est des écarts majeurs, là il y a un risque très fort de faire un audit supplémentaire. Donc justement, puisqu'on parle d'audit, à Calibat on a mis en place une qualification qui est la qualification 8731 pour les audits énergétiques. Si un particulier veut faire des travaux de rénovation, il est assez efficace, voire très efficace, qu'il fasse précéder ses travaux par un audit énergétique. Et cet audit énergétique, il peut aussi être pris en charge, enfin être subventionné, être aidé par les organismes qu'on a cités tout à l'heure. Donc à Calibat, on a une qualification. Donc s'il y a des particuliers qui cherchent effectivement une entreprise qualifiée pour faire un audit énergétique, c'est la qualification 8731. Donc c'est une qualification pour laquelle Calibat a envoyé des auditeurs qui ont audité les rapports d'audit qui ont été faits par les entreprises. Donc ça permet d'avoir un regard normalement tierce partie et qui indique effectivement, avant de faire une rénovation, dans quel ordre il faut faire les travaux. Donc parce qu'effectivement, si c'est le particulier qui choisit l'ordre dans lequel il va faire les travaux, on peut effectivement se tromper, pas faire leurs travaux dans le bon ordre et éventuellement nuire quelque part aux travaux qui seront faits après. Donc pour l'audit énergétique, en fait, à Calibat, il y a Calibat, donc il y a une qualification, mais il y a aussi un autre organisme qui s'appelle l'OPQIBI. Donc nous, on n'a pas beaucoup d'entreprises, une cinquantaine, mais l'OPQIBI en a beaucoup plus. Donc si vous souhaitez faire des travaux de rénovation énergétique, il faut effectivement de préférence faire un audit énergétique avant de les lancer. Et pour les bâtiments qui sont classés F et G, qui ont une étiquette énergétique F et G, il faudra effectivement, normalement peut-être à partir de septembre ou peut-être à partir du début de l'année prochaine, faire obligatoirement un audit énergétique réglementaire pour effectivement que les travaux qui soient faits aillent dans un sens d'efficacité. Parce que pour le moment, en rénovation, il y a beaucoup de travaux, de gestes qui ont été faits et malheureusement, l'ensemble de tous ces gestes ne sont pas forcément très efficaces. Donc c'est pour ça que il y a un souhait assez fort de faire des rénovations globales, par exemple, qui permettront d'être beaucoup plus efficaces qu'une succession ou que de simples gestes, c'est-à-dire un simple travaux, une isolation, une ITE et autres. Donc, normalement, vous avez dû voir à la télé qu'il se met en place ce qu'on appelle les accompagnateurs Rénov. Donc, c'est effectivement un certain nombre de personnes, d'organismes. Il y aura même éventuellement des entreprises qualifiées 87-31 qui pourront le faire. C'est surtout des anciens conseillers faire qui aideront effectivement les particuliers à faire tout ce qu'il faut à faire, à demander les aides, etc. Peut-être même à surveiller les travaux. Donc, ça aidera aussi à massifier les travaux. Donc, on le voit, il y a une campagne très forte de pub à la télé. Vous ne pouvez pas l'avoir manqué. Alors, un des gros soucis de la rénovation énergétique en France pour le moment, c'est qu'il y a eu effectivement, et là aussi, vous avez dû peut-être voir Envoyé spécial et autres, il y a eu un certain nombre d'éco-délinquants qui sont arrivés. Ce que nous, à Calibat, on a appelé éco-délinquants, c'était en fait des entreprises qui, effectivement, n'avaient comme objectif pas forcément de faire des travaux de qualité, mais de récupérer quelque part les aides qui sont données.
Oui, on en a vu sur... on va dire, dès qu'il y a des aides massives sur un sujet, les éco-délinquants arrivent, que ce soit sur le photovoltaïque à l'époque, les pompes à chaleur, l'isolation par l'extérieur, etc.
Et surtout, les coups de pouce, en fait, toutes les solutions où les particuliers payaient 1 euro, ça a été effectivement... Ça a attiré effectivement des entreprises qui se sont lancées. Donc, dont le seul objectif, c'était pas de faire des beaux chantiers, mais de se faire de récupérer effectivement les aides. Sachant que certains particuliers, en payant un euro, n'étaient pas trop vindicatifs ou trop regardants sur les travaux faits, puisque ils se disaient que pour 1 euro, on est toujours... Bon, on a, à la limite, il n'y a pas trop de raison de se plaindre. Donc nous, au niveau de Calibat, on a quand même eu un certain nombre de remontées par rapport à ces travaux. Donc on est intervenu, on a essayé de se battre pour se débarrasser de ces éco-délinquants. Malheureusement pour Calibat, la plupart quand même ont commencé par être qualifiés Calibat. Donc nous maintenant il faut les sortir. Donc on a quand même, bon on y arrive, mais ça n'a pas été simple. Et on n'a pas forcément eu toutes les aides qu'on espérait ou qu'on escomptait. Et on n'a objectivement pas eu trop l'aide non plus de la justice. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on y est arrivé, maintenant on commence à être... beaucoup plus efficace pour effectivement les sortir. Mais c'est des entreprises qui, elles ne sont pas forcément très nombreuses en France, mais qui font beaucoup de chantiers, plusieurs milliers de chantiers par an. Ce n'est pas un ou deux chantiers, ce n'est pas des milliers d'entreprises, mais c'est une dizaine d'entreprises, ou peut-être, je ne sais pas, une cinquantaine, mais qui font par contre beaucoup de chantiers par an.
Et donc, en général, ils sont très efficaces au téléphone pour appeler les gens.
Effectivement, c'est pour ça que tout ce qui était démarchage téléphonique, ça a fini par être interdit, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces entreprises qui avaient des centres d'appel et qui effectivement téléphonaient aux particuliers. Quelquefois, certains particuliers avaient plusieurs coups de téléphone par jour. Donc il a fallu effectivement que, bon, au niveau de l'État, on intervienne. Donc normalement, c'est effectivement interdit. Donc vous ne devriez plus être démarché téléphoniquement par des entreprises qui vous proposent de l'isolation ou autre. Après, les aides existent toujours, donc ils trouvent des solutions. Et nous, au niveau de Calibat, notre difficulté, c'est que ces éco-délinquants, maintenant, ils commencent aussi, ils essayent d'intervenir avec la qualification d'audit énergétique en venant en amont d'une prestation et après en téléguidant sur des entreprises qui feront effectivement des travaux de piètre qualité. Bon, sachant qu'en plus, ils sont très, très
Daniel,
organisés.
On va devoir passer aux autres intervenants. Je te remercie. Tu avais encore...
Non, je voulais juste te dire, dernier point, je voulais juste te dire qu'il y avait différentes associations, organisations, comme l'AFPAC, c'est-à-dire l'Association française des pompes à chaleur, l'AFV, l'Association française de ventilation, qui interviennent aussi, qui font pour effectivement aider à massifier la rénovation en faisant connaître ses produits, les avantages et autres. Donc il y a un certain nombre d'organismes qui concourent à massifier la rénovation en France.
Merci. Rappelez-vous, pour aller voir les dispositifs existants, c'est France Rénov, sans eux au bout, France Rénov. Il y a aussi des aides aux audits. D'ailleurs, on a parlé d'audit énergétique pour les bâtiments, notamment pour les maisons individuelles. Il y a des aides qui existent, qui sont nationales, voire aussi locales et régionales. Et c'est vrai que c'est important de faire attention que les dispositifs mis en place ne génèrent pas un effet d'aspirateur vers ceux qui ont envie de faire de l'argent sur le dos des pauvres propriétaires qui essaient de faire des travaux. Mais il y a évidemment beaucoup d'artisans qui font très bien leur travail et vous pouvez compter sur eux, notamment ceux qui sont du coup référencés chez Calibat ou pour les professions plus intellectuelles, on va dire à l'OPQIBI qui a été présenté aussi. Vous pourrez avoir des infos complémentaires, je pense, sur vos stands. Merci. Alors, je me tourne maintenant vers Marie Gracia, directrice du collectif Effinergie, pour nous parler un peu de BBC, comment on fait pour atteindre un niveau de performance et qu'est-ce qu'est ce niveau de performance, pardon.
Bonjour à tous, merci. Donc effectivement, nous, chez Finergy, en deux mots, on œuvre notamment pour promouvoir des rénovations performantes et bas carbone. Et je voulais revenir sur un des points qui a été évoqué, c'est la question de la performance des rénovations. On est aujourd'hui sur une table ronde autour de la massification, mais je ne peux pas parler de massification sans parler de la performance des rénovations qu'on fait et qui sont aujourd'hui faites en France. Chez Finergy, depuis une dizaine d'années, on a proposé un label sur la rénovation énergétique performante, la rénovation BBC, pour tester, innover et montrer comment on peut atteindre nos objectifs. Yann l'a évoqué en introduction, les objectifs ils sont assez ambitieux. L'idée, c'est en 2050 d'atteindre la décarbonation de l'ensemble de l'économie, dont le secteur du bâtiment. Ça a été inscrit dans la stratégie nationale bas carbone et ça veut dire que chaque année, dès à présent, il faudrait réaliser 350 000 rénovations performantes. Et on en est loin puisque on l'évoquait juste avant, on est plutôt aujourd'hui sur des rénovations par geste et à compter de 2030 on est à 700 000 rénovations performantes. Donc les objectifs ils sont immenses si on veut atteindre notre ambition en France, et je pense que personne n'a manqué le troisième volet du rapport du GIEC qui a été publié hier et qui nous dit qu'on a 3 ans pour agir. Et après, ce sera trop tard. Donc, vous voyez bien qu'on est dès à présent sur des enjeux, et notamment sur, quand on parle de rénovation, la performance. À travers le label Rénovation BBC, ce qu'on a montré, c'est surtout qu'on savait faire. On sait faire des rénovations performantes. On sait les mener tant sur du tertiaire que sur du logement, sur des maisons individuelles que sur du logement collectif. Donc ça, c'est la première réponse. On sait faire. Techniquement, on a des professionnels qui savent faire, trouver les solutions techniques pour faire des rénovations qui nous permettent d'atteindre le niveau BBC et donc d'avoir cette performance recherchée. Donc ça, c'est un premier point. On sait faire, je vous ai donné quelques chiffres d'objectifs, pour autant, on n'en fait pas encore assez. À titre d'exemple, depuis 2009 et le label qui a été mis en place par Finergy, on a un peu plus de 270 000 logements en une dizaine d'années. 2021 marque une vraie accélération avec 40 000 logements qui sont en cours de certification. Pour autant, on est très très loin des chiffres que je mentionnais juste avant. Donc ça, c'était un premier point. La performance des rénovations à atteindre et surtout nous dire qu'on sait faire, même si, on le verra juste après, je pense, avec mon collègue, il y a des questions de formation des professionnels, de nombre de professionnels compétents sur le marché. Un deuxième point que je voulais aborder, juste mentionner qu'une fois qu'on sait faire et on a pas mal de retours d'expérience, je ne les détaille pas ici, mais on aura l'occasion d'en parler tout au long du salon. On a mis à jour ce label en tenant compte des retours d'expérience des 10 dernières années, donc on a de la matière. Ça fonctionne. On sait faire, mais ça fonctionne. On a mené des campagnes d'instrumentation sur les bâtiments rénovés pour vérifier la performance réelle et pas non simplement les calculs. Le résultat, c'est que ces bâtiments sont réellement plus performants. On est sur une campagne d'une centaine de bâtiments instrumentés à travers le projet Perfin Mind. À 98%, les occupants sont contents de leur logement rénové. Ça veut dire qu'ils sont mieux dedans, que c'est plus confortable au quotidien, qu'ils ont moins froid l'hiver, moins chaud l'été, etc. Donc, on sait faire et ça fonctionne. Pour autant, on n'est pas encore au niveau. Il y a plusieurs questions. On a évoqué les aides. Qui dit aide et multitude d'aides dit que ça coûte cher de faire une rénovation performante, que c'est pas forcément simple. Et notamment quand on se lance dans des projets ambitieux en une fois, etc. D'où la notion peut-être à avoir en tête du BBC par étape. On a un objectif final, un niveau BBC, une performance. Idéalement, on le fait en une fois. Ça demande d'avoir le temps, les moyens financiers, le bon projet, les bons artisans au bon moment, etc. Si c'est pas possible en une fois, on peut le faire par étape, mais il faut le faire correctement. Ça veut dire qu'on ne fait pas 15 étapes. On fait au maximum 3 étapes qu'on va planifier dès le début à travers une feuille de route pour penser notamment les interfaces entre les travaux. Quand je dis qu'on sait faire, oui, mais si on fait n'importe comment, le résultat et la performance ne sera pas là. Donc ouais, ça, c'est des petites
difficile
choses.
Difficile effectivement de changer des encadrements de fenêtres sans, sans penser à l'isolation qu'on va devoir y mettre, par exemple.
Par exemple. Donc c'est des petites choses comme ça, mais c'est pour dire on peut y arriver, y compris par étapes, mais ça veut dire que les professionnels soient capables de gérer ces étapes, qu'il y ait un suivi, un accompagnement dans le temps et une planification. On ne peut pas un matin se lever et dire « Ah, bah, j'ai fait des travaux il y a quelques années, bon, si j'en refais une petite couche, ce sera BBC à la fin et tout va bien. » Ça s'anticipe et ça fait partie des enjeux pour atteindre nos objectifs. Et après, un dernier sujet, si je peux encore prendre deux minutes, c'est y a, quand on parle de performance et de ces projets de rénovation, juste vous mentionnez qu'il n'y a pas de projet unique. Chaque projet va être différent. Il y a bien sûr des solutions dites industrialisées qui vont fonctionner sur certaines typologies de bâtiments, etc. Mais pour autant, on se rend bien compte qu'on a un vrai besoin de regarder chaque projet individuellement pour pouvoir trouver des solutions qui vont répondre à chaque typologie. Chez Effinergie, on s'est beaucoup intéressé aux bâtiments à caractère patrimonial. Pourquoi ? Parce qu'on vient souvent nous dire « c'est un bâtiment patrimonial, je ne peux pas y toucher. On ne sait pas faire, on va détruire, c'est trop compliqué, ce ne sera pas performant, etc. etc. »
Tu peux préciser ce qu'on entend par bâtiment patrimonial ?
De façon très très large, il y a un bâtiment sur lequel on aura... alors le patrimoine, c'est toujours difficile à définir et chacun a sa définition, mais on ne parle pas seulement des vieilles pierres, hein, on parle bien du patrimoine, y compris du patrimoine du XXe siècle qui peut être protégé dans certains secteurs.
Oui, c'est des bâtiments qui ne sont pas forcément classés, mais qui sont construits de manière, on va dire, ancienne, ou enfin, on appelle construction vernaculaire, avec des matériaux. Des matériaux locaux, etc. Et puis bâtiment 20e, ok.
Donc c'est assez varié. Mais aujourd'hui, quand on a une réglementation technique sur la rénovation, on a plutôt tendance à dire ces bâtiments, on n'y touche pas. Ça ne s'appliquera pas, on les met de côté. Chez Effinergie, on s'est dit c'est quand même dommage parce que ces bâtiments, ils sont très nombreux et si on n'agit pas dessus, c'est certain qu'au final, on aura un problème. Donc, on a lancé une expérimentation sur un label patrimoine pour regarder comment on peut traiter ces bâtiments. Est-ce qu'on sait réellement pas faire et on les laisse de côté ou est-ce qu'on peut mener des rénovations performantes qui vont allier d'une part l'efficacité énergétique et d'autre part la préservation du patrimoine. L'expérimentation est en cours, donc je ne vais pas faire l'ensemble des résultats maintenant. Pour autant, les premiers projets qui rentrent dans l'expérimentation, on voit bien qu'ils arrivent à atteindre de très bons niveaux de performance énergétique. Les questions souvent qui se posent, c'est plutôt sur le côté préservation du patrimoine, comment on arrive vraiment à allier les deux, à trouver le bon équilibre, à respecter le bâtiment et tout ce qui a pu être fait. Mais là aussi, ça veut dire qu'on sait faire. C'était juste un exemple pour dire qu'il y a des bâtiments qui vont être très divers. Pour autant, on peut trouver des solutions techniques qui vont répondre à toutes les typologies de bâtiments, à tous les modes constructifs qui ont pu être mis en place pour faire de la rénovation performante. Donc voilà un petit peu un panel, ce qui veut dire que la question de départ étant comment on massifie, on n'est pas encore à la massification. Pour autant, on a toutes les cartes en main pour y arriver. Et aller vers cette massification sans oublier la performance des bâtiments. Mais ça repose beaucoup derrière sur des professionnels compétents, formés et présents sur l'ensemble du territoire, qui est une des questions qui se pose réellement aujourd'hui.
Bah, qui fait une excellente transition pour l'intervention de Franck Lenuellec. Juste sur Effinergie, pour terminer, donc vous avez les informations sur le site internet, évidemment, de l'association Effinergie et sur l'observatoire aussi bâtiment basse consommation. C'est Observatoire BBC, hein, vous tapez ça sur votre moteur de recherche préféré, vous allez tomber sur le site. Ça vous permet de voir ce qui a déjà été construit en rénovation, enfin en neuf et en rénovation, parce que ce qui nous intéresse là, c'est la rénovation. Voilà, avec des fiches techniques, des infos statistiques, etc. C'est extrêmement utile, je pense à ça, parce qu'il y a beaucoup de lycéens là dans la salle, et... Si vous voulez voir comment on fait des bâtiments efficaces aujourd'hui, allez sur ce site Observatoire BBC et fouillez un peu partout. Voilà, merci Marie. Donc je passe maintenant la parole à Franck Lenuellec pour 3CA BTP. Alors, parlons formation maintenant.
Oui, parlons formation. Merci Marie pour la transition. Donc pour donner un ordre d'idée, donc le 3CA BTP est un acteur qui accompagne les jeunes et professionnels dans la formation. Aujourd'hui, nous comptons près de 100 000 apprentis du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur sur l'ensemble des métiers du bâtiment, donc que ce soit des bâtiments ou des travaux publics. Alors il y a un vrai sujet aujourd'hui en termes de massification. Donc pour massifier, il faut de la compétence. Pour avoir de la compétence, il faut de la formation. Et donc il faut être en capacité de former les nouvelles générations qui seront les professionnels de demain et de monter en compétence les professionnels d'aujourd'hui. Alors il y a trois sujets quand on parle de rénovation énergétique. Il y a premièrement la rénovation énergétique, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions de CO2. Mais moins d'émissions de CO2, à quel prix ? Il faut que ce soit aussi en respectant les enjeux de l'économie circulaire. Donc on va parler de réemploi, on va parler de réversibilité des usages pour arriver à limiter l'artificialisation des sols. Et ensuite, on va parler également du numérique. Le numérique, nous sommes au cœur du numérique aujourd'hui, et donc c'est le numérique au service des usages. C'est-à-dire d'être en capacité de ne pas sortir des usines à gaz, mais d'arriver à faire en sorte que le numérique passe par le premier outil que l'on a dans notre poche, c'est le téléphone portable. C'est la première brique du numérique et c'est la première brique que n'importe quelle entreprise du bâtiment est en capacité d'utiliser. Car rappelons-le, aujourd'hui, 98% des entreprises du bâtiment, du secteur de la construction, sont des entreprises de moins de 20 salariés. Donc quand on parle de rénovation énergétique, on parle d'accompagner ces 98% d'entreprises qui ont moins de 20 salariés pour changer, pour faire évoluer les comportements. Donc c'est un élément qui est crucial. Et aujourd'hui, donc nous avons des actions avec l'ADEME pour accompagner cette transition. On l'évoquait tout à l'heure, nous sommes déjà en retard. Le rapport du GIEC évoquait que si dans 3 ans, nous n'atteignons pas une asymptote par rapport aux émissions de CO2, ce sera terminé. Donc il est important aujourd'hui de faire en sorte de recruter les bonnes compétences, de former les bons talents. Et donc c'est pour ça qu'avec l'ADEME, nous avons monté une opération qui va nous permettre de répondre à ces enjeux de la rénovation énergétique. Pour donner un chiffre clé, si nous devons continuer à accélérer sur les rénovations énergétiques, il nous faut 150 000 primo-entrants d'ici à 3 ans, rien que pour répondre aux besoins actuels. Sans parler des enjeux qu'a évoqué Marie à l'instant. Donc il nous faut des compétences opérationnelles rapidement et quels que soient les niveaux d'études, quels que soient les enjeux. Et il y a un élément aussi qui va permettre d'accélérer cette massification de la rénovation énergétique, c'est le bien-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut répondre à la question du pourquoi. Pourquoi je rénove ? Est-ce que je rénove juste pour faire une plus-value sur mon habitation ? Est-ce que je rénove juste parce que la réglementation m'y oppose ? Ou est-ce que je rénove pour me sentir mieux chez moi ? On a bien vu qu'avec cette période de Covid, il était important de se sentir bien chez soi, avec une pièce supplémentaire, mais surtout d'avoir une qualité de vie supplémentaire. Et là, j'en arrive au quatrième volet de cette massification de la rénovation énergétique, c'est la gestion de la relation client. C'est la compréhension des attentes des clients. Et les clients que nous sommes tous, les usagers. Le client lambda qui va vouloir faire rénover sa maison et qui ne saura pas comment faire et qui va avoir face à lui un artisan qui devra le conseiller sur le pourquoi de la rénovation énergétique et surtout les solutions. Donc on a souvent parlé, donc Emmanuel Wargon a évoqué la question des diagnostiqueurs de la rénovation énergétique, mais là ça va bien au-delà. C'est que chaque artisan, aujourd'hui, chaque professionnel, doit être en capacité de poser un diagnostic sur la maison et d'accompagner son client. Et jusqu'à présent, il y a un sujet que je connais bien, parce que moi-même je suis de la filière électrique, c'est jusqu'à présent un électricien livrait sa maison, avait apposé le tampon du consuel et partait, il n'avait plus rien à faire avec la maison. Aujourd'hui, en fait, que ce soit l'électricien, le plombier ou n'importe quel acteur de la construction, il doit être en capacité de faire évoluer l'habitation en fonction de ses usages. Et la rénovation est un élément crucial de l'évolution de l'habitation et de la réversibilité à terme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous réunis, encore plus aujourd'hui au niveau du BIM World, sur cet enjeu de réunir ces quatre composantes, rénovation énergétique, économie circulaire, le digital au service des usages et au service de la gestion de la relation client et surtout de l'appréhension des attentes des uns et des autres. Et donc c'est pour ça que tous les acteurs de la filière doivent se réunir pour atteindre cet objectif. Parce que même si on doit atteindre la décarbonation à horizon 2050, c'est moins 50% d'émissions de CO2 à 2030. Et donc nous devons accélérer cette décarbonation dans les 3 prochaines années. Et là je regarde les lycéens qui sont en face de nous, les jeunes générations, vous avez un rôle à jouer par rapport à notre génération qui est déjà celle, les deux générations d'avant, parce qu'il y a un élément essentiel, et ça sera la fin de mon propos, c'est un élément essentiel, c'est le collaboratif, c'est de travailler ensemble. Et là, ça, c'est un élément qui est crucial. Le digital doit être au service de vos nouveaux comportements et au service de la nouvelle façon de penser la rénovation énergétique. Pourquoi ? La rénovation énergétique met en œuvre l'intégralité de la chaîne de valeur d'un bâtiment. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale du projet, d'un chantier, et plus une vision cloisonnée. Parce qu'en fait, la rénovation énergétique n'est pas simplement le fait d'utiliser des aides de l'État, de mettre en œuvre la rénovation énergétique, la RE 2020, et de poser de la pompe à chaleur au kilomètre. Excusez-moi, c'est peut-être pas forcément corporate ce que je dis, mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est bien évidemment d'avoir de la rénovation globale, de s'inscrire dans la durée, dans la durabilité, et donc forcément de travailler sur des compétences transversales, des compétences comportementales qui vont faire eh bien, que chacun va pouvoir trouver sa place et va pouvoir surtout apporter sa pierre à l'édifice tout au long des étapes de la construction. Et donc là-dessus, je regarde Olivier Seny ou Hubert Mounier qui est en charge de nos CFA sur Nouvelle-Aquitaine. Nous travaillons ensemble pour faire de ces jeunes générations des ambassadeurs de la rénovation énergétique. Parce qu'en fait, c'est à votre génération de porter justement ce drapeau, cet étendard sur la rénovation énergétique durable.
Voilà. Merci. Et donc on a un énorme défi, hein, 50 000 jeunes. Est-ce qu'on pourra... Enfin, j'ai entendu parler de web-série et de travail partenariat avec l'ADEME.
Oui,
tout à fait. En dire un mot.
Donc là, nous démarrons avec l'ADEME une opération qui est articulée autour d'une web-série donc qui sera diffusée eh bien, sur l'ensemble des réseaux sociaux pour arriver justement à recruter sur 3 années 150 000 talents, nouveaux talents, que ce soit des publics en reconversion ou des publics en formation initiale, donc des jeunes générations, justement pour arriver à accompagner cette massification de la rénovation énergétique. Et ça, j'insiste bien, quels que soient les métiers, quels que soient les sujets. Parce que la rénovation énergétique, et c'est ce qu'évoquait Marie à l'instant, la rénovation énergétique n'est pas une verticale, n'est pas un métier en tant que tel. Ça couvre vraiment l'ensemble des métiers, et donc c'est une approche transversale.
Bah en tout cas, c'est entraînant, motivant, voilà, ce que tu nous dis et ce que vous nous avez dit là aujourd'hui. Donc avec des professionnels qualifiés, avec un niveau de performance BBC, et avec une formation adéquate de primo entrant sur le marché puis et de professionnels en reconversion éventuellement. J'espère qu'on pourra arriver à cet objectif de massification de la BBC. Et effectivement, vous serez en plein dedans dans votre vie professionnelle. Nous, j'espère qu'on le connaîtra quand même un peu, cette massification.
À 3 ans, hein.
Comment ?
3 ans.
Comment ça, 3 ans ?
Il reste 3 ans, donc normalement, tu seras toujours là pour le voir dans 3 ans.
Ah oui, mais puis même en retraite, je le verrai, mais c'est pas tout de suite à ma retraite, je vous rassure. Et en tout cas, merci à vous. Alors, il est quoi ? Ouais, on a une autre conférence qui démarre dans 10 minutes, donc on peut peut-être prendre une ou deux questions si on a le temps. Enfin, si vous en avez aussi. Alors, il y en a deux là-bas. Ah oui, on n'a pas de micro.
Merci. J'aimerais revenir sur l'isolation à 1 euro, mais pas pour les particuliers, mais plutôt pour les professionnels. Donc moi, je travaille pour un bailleur social, donc on a plein de rénovations à faire sur notre parc. Et on se posait la question de cette rénovation à 1 euro pour faire des rénovations globales. Donc il y a des entreprises qui sont venues nous démarcher et on avait plutôt eu des retours sur des particuliers et non pour des professionnels. Donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez me donner plus d'informations là-dessus.
C'est vrai que nous, les gros soucis qu'on a pu avoir avec l'isolation à 1 euro, c'était essentiellement sur des particuliers, c'est certain. Et tout ce qui a conduit à faire des plaintes, etc., et aller très loin, éventuellement à sortir des entreprises, c'était chaque fois des particuliers qui étaient en cause, effectivement, et donc qui ont fait faire des isolations à 1 euro, des combles, du soufflage, ou du plancher bas, ou de l'ITE et autres, et c'était chaque fois avec des particuliers. Hein. Les entre guillemets éco-délinquants, ils s'attaquent quand même essentiellement, enfin, pas forcément tout à fait essentiellement, mais quand même en très très grande majorité aux particuliers. parce qu'effectivement, en fait, ce type d'entreprise gère carrément les aides. En fait, le particulier, il débourse juste un euro. Il voit la facture, enfin, quand c'est des éco-délinquants, parce que la plupart des entreprises, heureusement pour tout le monde, c'est pas des éco-délinquants quand même. C'est un tout petit nombre, hein, donc faut pas paniquer du tout.
C'est un petit monde, mais très voyant.
Et puis après, on a toujours tendance à chercher effectivement et à mettre en avant ce qui ne fonctionne pas bien. Mais il y a quand même des milliers et des milliers de chantiers qui sont bien faits, avec des très bons artisans, heureusement pour nous.
Merci Daniel. Une autre question là-bas, puis on va s'arrêter.
Bonjour. Du coup, j'ai deux petites questions. La première, c'est pourquoi aujourd'hui, à votre avis, on ne rénove pas plus ? Quels sont les facteurs limitants ? Et la deuxième question qui va avec ça, c'est pourquoi n'a-t-on pas plus de contrats type garantie de performance énergétique ? Donc, je sais qu'on en a pour le collectif. Je crois que pour l'individuel, il n'y en a pas trop. Et on voit avec le prix de l'énergie qui explose, on voit avec la valorisation qu'on peut faire sur l'immobilier, pourquoi on n'a pas plus de garanties qui inciteraient fortement les gens à rénover ?
Je peux essayer de répondre sur la première partie de la question. En fait, on n'a pas fait ça hein, encore. On invente hein, la rénovation globale massive. Jusqu'à maintenant, on faisait des rénovations par geste. C'est toi qui le disais, Daniel. Donc c'est aussi parce que la profession du bâtiment est construite comme ça. On a des corps d'État qui vont travailler sur leur spécialité. Donc le fait d'avoir une vision globale, de rénover globalement et de manière performante les bâtiments, c'est finalement assez neuf. Et c'est un défi qui est encore... Enfin, on sait faire, hein, ça a été dit tout à l'heure, mais il faut le généraliser maintenant. Et c'est encore un défi qui est devant nous. Sur la deuxième partie, je te laisse compléter.
En fait, il y a aussi le problème, c'est que si on regardait les retours sur investissement quand on faisait que certains travaux, il y avait, bon, l'énergie coûtait peut-être pas encore assez cher, mais on y va tout droit. C'était pas forcément très rentable très rapidement. Donc avec des coûts d'énergie qui partent effectivement et qui s'envolent, là effectivement la rénovation, les particuliers, même ceux qui ont des moyens modestes, seront quand même vraiment motivés effectivement pour le faire. Donc après, on n'a pas aussi au niveau français des entreprises du bâtiment qui sont très agressives commercialement. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les éco-délinquants y sont venus, parce qu'eux, ils ont eu des méthodes avec des centres d'appel, etc., beaucoup plus agressives. Nous, les entreprises du bâtiment, elles attendent souvent qu'on vienne les chercher. Or, il faudrait peut-être effectivement aller chercher le client. Donc, et c'est ce qu'ont su faire quelquefois les éco-délinquants, et c'est aussi pour ça qu'ils ont rapidement se sont rapidement développés.
Merci. Marie, tu complètes ?
Oui, juste un complément sur la première partie de votre question, sur un petit peu les freins à la rénovation. On se pose souvent la question, est-ce que c'est l'offre, est-ce que c'est la demande ? Je pense que c'est un petit peu des deux côtés, et on a parlé là plutôt du côté de l'offre des professionnels. Il faut aussi penser sur, quand on cherche à rénover massivement nos logements, c'est autant de décisions individuelles qui doivent être prises. C'est-à-dire que chaque personne dans ce qui est leur patrimoine, parce que le logement des Français, c'est quand même le patrimoine que chacun constitue, il faut qu'ils prennent la décision d'investir des dizaines de milliers d'euros, d'avoir des travaux pendant parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, la complexité que c'est pas agréable les travaux, ça va mal se passer, ça va être sale mon chantier, etc. Donc c'est aussi se poser la question de cette décision individuelle et de bien regarder sur les leviers. C'est pour ça que depuis quelques années, il y a eu un gros effort de fait pour parler des vraies motivations de l'usager, notamment des questions de confort, de bien-être chez soi, et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Les Français rénovaient énergétiquement leurs biens de façon générale. Alors aujourd'hui, le contexte international nous amène un tout petit peu plus à se poser la question avec la crise de l'énergie en cours, mais rénover énergétiquement son bien, ça ne fait rêver personne. Donc le sujet, c'est comment j'arrive à déclencher ces travaux et à faire passer cette prise de décision. Et derrière, comment je suis accompagnée correctement pour bénéficier des aides à la rénovation, puisqu'il y en a beaucoup, elles ont été citées en début de conférence. Pour autant, elles peuvent financer massivement des travaux. Pour des ménages modestes à très modestes, on a plus de 80% de financement par des aides publiques. Donc il ne faut pas l'oublier, ça peut être possible, y compris pour des travaux très ambitieux. Être accompagné, trouver le bon plan de financement et avoir des travaux adaptés. Donc c'est en fait un écosystème qui est assez complexe. La rénovation, c'est un sujet assez complexe et c'est à nous, professionnels, de réussir à faciliter ce parcours, d'engager la décision de rénover et derrière de mener les travaux à bien.
Merci. Bon, on va arrêter là pour cette conférence. Vous voyez que le sujet de la massification de la rénovation entraîne plein d'autres sujets. qu'il faudrait... Enfin, on n'a évidemment pas le temps de tout traiter sur cette grosse demi-heure de présentation. Alors, merci à vous. On va enchaîner très rapidement, là, dans 5 minutes, sur la conférence suivante, qui est sur les indicateurs pour la qualité environnementale des matériaux. J'ai vu quelques intervenants, d'ailleurs, pas loin, qui vont pouvoir me rejoindre dès maintenant.